RCF.
Le journal de la rédaction nous est présenté par Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
La Russie s'apprête à annexer 4 régions ukrainiennes.
Des référendums ont débuté ce matin. Ils n'ont aucune existence légale, dénonce l'Occident, d'autant que leur issue ne fait guère de doute. Elle a 45 ans et entend restaurer le patriotisme en Italie. La candidate d'extrême droite, Giorgia Meloni, est la grande favorite pour remporter les élections générales ce dimanche. Son portrait à suivre. Incendie monstre, sécheresse interminable et canicule record après un été dantesque. Les jeunes sont de retour dans la rue pour les marches climat. Et puis l'automne arrive et avec elle la saison des champignons. Pour aider les cueilleurs, des applications mobiles se développent. Attention, il faut s'en méfier, nous dira un expert en mycologie. Ils ont été annoncés il y a quelques jours seulement. Les référendums d'annexion organisés par les pro-russes débutent aujourd'hui et doivent se tenir jusqu'à mardi prochain. Les territoires de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijja dans l'est de l'Ukraine sont ainsi soumis à un droit à l'autodétermination selon Vladimir Poutine. Une parodie de référendum dénonçait Emmanuel Macron en début de semaine, d'autant que le résultat du scrutin est connu d'avance selon Jean Dogliniasti, ancien ambassadeur de France en Russie.
Ces référendums, bien sûr, ils sont, si je puis dire, téléphonés. Dans ces 4 régions, tous les pro-ukrainiens sont partis. Donc, le corps électoral, c'est des gens qui sont plus ou moins acquis à la Russie. La conséquence, elle est très simple. C'est d'ailleurs un des objectifs de ces référendums et de ce rattachement à la Russie, c'est de donner à ces populations, ébranlées par les défaites russes, la garantie que les Russes ne les laisseront pas tomber. Parce que toutes ces populations ont très peur que si les Ukrainiens regagnent du terrain, eh bien, il y ait une épuration, qu'il y ait des problèmes comme en ont tous les gens qui sont considérés comme collaborateurs à la fin de la guerre. La Russie leur donne la garantie que, étant intégrée au territoire russe, la Russie mobilisera tous ses moyens pour sauvegarder l'intégralité du territoire russe.
Et dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelait hier les Russes à protester contre la mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine. 300 000 réservistes de l'armée appelés au combat. Le président iranien tente de faire taire la contestation dans son pays. Ebrahim Raisi affirme qu'une enquête serait ouverte après le décès de Mahsa Amini. Cette jeune femme de 22 ans est morte samedi dernier et suite à son interpellation par la police des mœurs. Depuis, les manifestations se multiplient en Iran. 31 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre, d'après une ONG norvégienne.
Les Italiens sont appelés aux urnes dimanche.
Ils doivent élire les 200 sénateurs et 400 députés composant le Parlement. Hier, l'alliance dominée par l'extrême droite tenait son ultime meeting à Rome, sur la Seine, autour de Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Une certaine Giorgia Meloni, à 45 ans, elle est donnée grande favorite pour succéder à Mario Draghi à la présidence du Conseil italien. Les précisions de Jean Duquesne.
Famille, religion, patrie, voilà le credo de Giorgia Meloni, une candidate ultra-conservatrice, anti-système et anti-immigration qui entend restaurer le patriotisme en Italie. À la tête du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni n'est pas nouvelle en politique. Dès l'âge de 15 ans, elle s'engage au sein du mouvement post-fasciste MSI et à l'époque, elle ne cache pas son admiration pour l'ancien dictateur Benito Mussolini. Tout au long de sa carrière, la romaine de naissance impressionne par sa précocité et son ambition. Plus jeune élue du Parlement à 29 ans, elle devient en 2006 la plus jeune ministre de l'histoire dans le gouvernement, surfant sur la poussée des extrêmes dans plusieurs pays d'Europe. Giorgia Meloni joue sur ses origines modestes pour attirer l'attention de la classe moyenne, donnée favorite de tous les sondages. Elle pourrait, à 45 ans, devenir la première femme à diriger le Parlement italien.
Précision de Jean Duquesne. Le Japon va rouvrir ses portes aux touristes étrangers. 2 ans après leur mise en place en raison de la pandémie de Covid, les restrictions d'entrée sur le territoire nippon seront levées, annonce la ministre du Numérique sans préciser toutefois de date.
Il est 7h34, les jeunes reprennent leur mobilisation pour le climat.
Depuis plusieurs années, les lycéens sont appelés le vendredi à sécher les cours et descendre dans la rue pour dénoncer l'inaction des dirigeants en matière climatique. Alors après l'été particulièrement éprouvant que nous venons de venir, la mobilisation reprend de plus belle. De nouvelles manifestations sont organisées partout dans le monde et dans une vingtaine de villes de France. Olive, c'est un surnom, va participer à ces manifestations. Elle est engagée avec l'association Youth for Climate, les jeunes pour le climat.
faire des manifestations, des dates mondiales comme ça, bah déjà ça ramène ce sujet dans le débat public et on impose des dates dans l'agenda politique, et ça c'est un fait assez important. Puis il y a le fait qu'il y a énormément de jeunes qui se sentent seuls, et donc ces moments de manifestation, c'est des moments où les jeunes se disent « Ok, en fait je ne suis pas seul à mal vivre ce problème, je ne suis pas seul à être conscient et conscient de ce qui se passe, et donc du coup on va réussir à agir collectivement ». Notre phrase un peu choc, c'est « Nous ne sommes pas responsables car nous ne sommes pas au pouvoir, on en a un peu marre que les jeunes, les personnes des quartiers populaires se fassent toujours culpabiliser sur ce qu'ils font, on parle toujours des individus sans jamais parler des industries, mais pour autant nous ne sommes pas collectivement impuissants et impuissantes. Certes face à nous, il y a des géants, mais en fait on arrive à bloquer des projets, on a réussi déjà par exemple à Nantes à faire reculer Amazon, on a réussi à faire reculer des projets de bétonisation, il y a eu des victoires encore il y a quelques jours, notamment sur les jardins joyeux de Rouen, donc on peut y arriver et on a besoin de garder cette force et de garder cette énergie, notamment pendant ces mobilisations.
Voilà, ces mobilisations qui se déroulent aujourd'hui mais aussi demain et dimanche dans une vingtaine de villes en France. On parlait il y a un instant des feux de forêt d'une ampleur inédite amplifiée par la canicule et le réchauffement climatique, mais l'origine de ces incendies est souvent humaine. La gendarmerie publie ce matin un bilan provisoire. 48 personnes suspectées d'être à l'origine de feux de forêt ont été interpellées durant l'été. Une douzaine ont déjà été condamnées pour des peines allant jusqu'à 2 ans de prison. Les représentants syndicaux du groupe Renault font part de leur satisfaction. Pour faire face à l'inflation, l'entreprise automobile va proposer à chaque salarié plusieurs aides pour un montant total estimé à environ 1 000 euros. 42 000 personnes sont concernées au sein du groupe.
Le déplacement du ministre de la Justice se poursuit en Corse.
Éric Dupond-Moretti est arrivé sur l'île hier. Une visite attendue alors qu'un nouvel assassinat a été perpétré mercredi soir en Corse. Les collectifs contre la mafia se mobilisent. Elles souhaitent une politique pénale adaptée à la lutte contre les systèmes mafieux. Écoutez Jean Toussaint Placenzotti du collectif anti-mafia Massimo Suzzini.
Donc nous attendons beaucoup. Bon, cela dit, il vient pour 2 jours. Il a un emploi du temps très serré. Là, nous n'avons pas fait de demande d'entretien, mais nous allons être très très attentifs. Là, il semblerait que ce soit une visite très technique. Il ne va pas, de notre point de vue, aborder les sujets de fond. Mais disons qu'il y a eu une évolution dans son discours. Ça, nous le notons. Mais par ailleurs, nous sommes aussi inquiets d'un démantèlement des services de police judiciaire tels que le prévoit la loi que propose ce gouvernement, dont il fait partie. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc on est attentif à ce qu'il va dire, mais disons que cette visite, de toute manière, n'a qu'une portée limitée.
Jean Toussaint Placenzotti au micro de Laetitia Pietri. Le procès du drame de Mias interrompu, les débats reprendront lundi. Hier, la conductrice du car est seule prévenue, a fondu en larmes. Les pompiers ont dû intervenir avant son évacuation. Elle continue d'affirmer que la barrière du passage à niveau était levée avant que son véhicule ne soit percuté de plein fouet par un TER. L'accident qui a eu lieu en décembre 2017 dans les Pyrénées-Orientales avait coûté la vie à 6 collégiens.
Et puis Thomas, les températures baissent, la pluie est de retour, vous savez ce que ça veut dire, c'est le début de la saison des champignons.
Et oui Clara, dans certaines régions ils sont même là en abondance, mais prudence, hein, chaque année Santé publique France répertorie environ 1 000 000 d'intoxications, certaines sont même mortelles. Des applications sur smartphone sont donc apparues pour aider les ramasseurs à identifier les champignons récoltés, mais elles ne sont pas assez précises, met en garde Patrick Laurent, il est mycologue.
Il y a à peu près 22 000 espèces de champignons supérieurs en Europe. Vous imaginez bien que n'importe quelle application est incapable de pouvoir vous dire avec justesse si telle ou telle espèce est comestible ou non, si vous l'avez identifiée correctement ou pas. Donc, il y a les applications, on va dire, sympas pour essayer de dépatouiller un petit peu les espèces, les différents genres. Et dès que l'on rentre, on va dire, dans des spécificités, c'est effectivement très compliqué. Donc effectivement, il faut aller vers un spécialiste, il faut aller vers des sociétés mycologiques qui sont à même de pouvoir déterminer scientifiquement les espèces. Et à coup sûr, il faut bien qu'il y a tout un panel et tout un degré de dangerosité par rapport aux espèces que l'on va consommer.
L'expert en mycologie, Patrick Laurent. Un mot de sport et de football pour terminer ce journal. Résultat encourageant pour l'équipe de France à 2 mois du Mondial au Qatar. Les Bleus se sont imposés 2-0 hier soir au Stade de France face face à l'Autriche. Des buts de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. Prochaine rencontre dimanche soir face au Danemark pour les Bleus. Et puis en tennis, Clara, c'est un match pour l'histoire, un match de légende qui va se jouer ce soir à la Laver Cup de Londres. Le dernier match de l'immense carrière de Roger Federer, le Suisse donnera ses ultimes coups de raquette aux côtés de son rival de toujours, l'Espagnol Rafael Nadal. Ils seront alignés en double à Londres face à une paire américaine. Le match débute à 20h.
Merci beaucoup Thomas Dullin, notre champion de l'info à nous. Merci pour le journal. L'information continue près de chez vous avec les trois questions A de votre rédaction.